c'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, c'est un scénario digne d'un film de science-fiction. Il était une fois, au nord du cercle polaire arctique, une terre abritant plus de 200 volcans, dont une centaine encore actifs. Ces volcans, majoritairement recouverts de glaciers, étaient jusqu'ici endormis. Mais avec le réchauffement climatique, ils pourraient massivement se réveiller. Cette histoire est une histoire vraie, elle se déroule actuellement en Islande et ce sont des scientifiques qui nous la racontent au micro de Samuel Turpin.
Le réchauffement climatique pourrait faire fondre les glaciers et il y a sous les glaciers des volcans. Par exemple, il y a un grand glacier sur l'Islande qui s'appelle le Vatnajökull, qui est grand comme la Corse.
C'est le plus grand glacier de l'île.
Il fait 2 km d'épaisseur et recouvre 6 volcans. S'il y a moins de glace, moins de pression sur les volcans, ces volcans pourraient être libérés de la pression superficielle, pourraient rentrer plus en éruption. Donc c'est vrai qu'on connaît plutôt l'impact des volcans sur les climats, mais l'impact du climat sur les volcans est à discuter et c'est un petit peu l'objet de ce modèle.
Le dérèglement climatique affecte aussi l'agriculture en Afrique subsaharienne, mais selon Alioune Fall, qui préside le FARA, le Forum pour la recherche agricole en Afrique, le continent a les moyens de s'adapter. Vous l'entendrez dans un instant. Soyez les bienvenus dans C'est pas du vent.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Donc là, on arrive sur un premier belvédère et on voit vraiment le magma qui jaillit en fontaine de lave, peut-être de plusieurs dizaines de mètres de hauteur, et qui s'écoule déjà en coulée de lave. Donc là, on a vraiment un début de feu d'artifice et on a envie d'aller encore plus près.
Les couleurs sont fantastiques.
On est pas loin de minuit, je pense. Donc on a un ciel étonnant avec quelques nuages, ce panache qui passe de l'orange au rosé, au lilas, au violet. Puis ces fontaines de lave écarlate, orange vif, qui jaillissent. La lave est pulvérisée en gerbes qui retombent. Chaque moment est unique, inoubliable. On flique dans sa rétine, ça semble infini. Mais on sait que peut-être demain, si on revient, on n'aura plus ça. C'est du jus de Verne en réalité.
Volcan, hein. Ça se regarde, mais aussi ça s'écoute.
Et oui, un volcan qui s'écoute, nous, en radio, forcément, ça nous parle. Direction l'Islande, aujourd'hui, terre de glace et de feu, plus précisément dans la vallée de Reykjanes, à 1 heure de route de la capitale, où le volcan Fagradalsfjall est entré en éruption le 19 mars dernier après 800 ans de sommeil. On s'en souvient, il y a exactement 10 ans, l'éruption de l'Eyjafjallajökull, j'espère que j'ai bien prononcé, paralysait le ciel européen. C'est un scénario qui pourrait se répéter si l'on observe les travaux de recherche des universités islandaises. L'activité sismique de l'île pourrait augmenter sous les effets du dérèglement climatique et même influencer le climat européen. Samuel Turpin est face à l'incroyable paysage du volcan Fagradalsfjall qui crache sa lave en compagnie du volcanologue Jacques-Marie Bardintzeff.
Cette éruption a été annoncée par une crise sismique qui a commencé en janvier 2020. On a noté des gonflements du sol jusqu'à 12 cm. Donc on s'attendait à une éruption à brève échéance. Et en fait, elle a mis 14 mois à venir. Il faut dire que le dernier mois avait été plus impressionnant au niveau sismique, puisqu'on a eu des périodes avec 3000 séismes en 48 heures, c'est-à-dire un séisme toutes les minutes.
Combien il y a de volcans connus sur l'Islande et combien sont en activité?
Alors, on a repéré, je crois, 32 volcans potentiellement actifs. Et on va dire qu'il y a une éruption en moyenne tous les 5 ans en Islande, à tour de rôle. Il y a 5 ans, c'était l'éruption d'Ölurón, au nord du Vatnajökull, qui avait duré 6 mois. C'était la plus grosse éruption lavique historique depuis celle du Laki en 1783.
Ce Laki en 1783, l'éruption, on peut dire qu'elle a un lien directement avec notre histoire contemporaine.
Le Laki est une fissure béante qui fait 25 km de long, ponctuée de 115 cratères, qui a vomi pendant 9 mois et qui a surtout injecté dans l'atmosphère des aérosols, des gaz, des cendres. Et ça a opacifié la haute atmosphère, qu'on appelle la stratosphère, et ça a modifié le climat. Et c'est historique parce que c'est la première fois que Benjamin Franklin, l'inventeur du paratonnerre, qui était ambassadeur des États-Unis en France, a fait le lien entre cette éruption majeure du lac Hill et les anomalies climatiques qu'on observe en Europe. Et c'est vrai que si on prend tous les relevés paroissiaux ou communaux de l'Europe occidentale, on se rend compte qu'il y avait, l'été 83, une baisse de température, été pourri, des brouillards, mauvaise récolte, des mauvaises vendanges, on a des chiffres précis, sans suivi des mauvaises récoltes, des famines. Et certains pensent même que le lac Hill aurait peut-être une influence sur le déclenchement de la Révolution française, parce qu'on va dire que le peuple français était affamé, et quand le peuple a faim, bien sûr, il est prêt à tous les extrêmes.
Alors, plus près de nous, il y a tout juste 10 ans, 11 ans maintenant, il y a aussi eu paralysie du ciel européen.
Oui, c'est également une éruption fameuse, c'est Leia Fiaiaiokutl, que tout le monde a appris à prononcer.
Toi en particulier.
Leia Fiaiaiokutl, ça veut dire le glacier de la montagne de Lille. Et il y a eu une conjonction entre une éruption importante en avril-mai 2010 et un flux de vent du nord vers le sud. Donc, a emmené le panache vers l'Europe continentale. Pendant une grosse semaine, les Européens ont été cloués au sol. Il faut quand même maintenant faire la part des choses 11 ans après. Zéro mort, zéro blessé, zéro avion abîmé. Donc, ça a été effectivement un gros désagrément pour beaucoup de gens. Des grosses pertes financières, mais aucune perte humaine. Donc il faut quand même hiérarchiser entre l'humain et le matériel.
Là, on a des oriflammes orange qui se terminent dans une robe ocre vers le ciel. Jacques-Marie, c'est tellement beau qu'on en oublierait un autre spectacle. Si on tourne la tête à notre droite, une lune de couleur rouge.
On a la lune qui est toute belle, alors elle est, elle est descendante et elle fait face au volcan. Donc c'est vraiment magique, c'est une belle nuit. On dit souvent qu'en Islande, il y a les quatre éléments qui se réunissent. Ben là, on a la terre, on a le feu, il y a la glace, pas loin, il y a l'eau, puis l'air, bien sûr.
Et cet air, c'est aussi le vent qu'on entend dans la bonnette du micro.
Voilà, mais bon, il est encore gentil. C'est-à-dire, on a eu des rafales bien plus importantes, à peine de quoi tenir debout. Là, on a un vent qui reste frais et doux et qui vraiment pour l'instant nous rafraîchit, mais c'est encore assez agréable.
C'est assez hypnotique, hein.
Voilà, c'est ça.
Là, on va attaquer une partie un petit peu plus dure hein, de la marche. On a devant nous une petite ascension qui nous attend là. On se donne rendez-vous là-haut.
Ça marche. On a vu souvent rejaillir le feu d'un ancien volcan qu'on croyait trop vieux.
Jacques-Marie, tu nous disais que l'Islande n'existerait pas sans les volcans. Les Islandais ont réussi à s'adapter aux volcans. Ils ont réussi à l'intégrer dans leur vie, en fait, à travers la géothermie. C'est ce qu'on connaît le plus.
Ça fait partie des énergies nouvelles, renouvelables, et fait partie des challenges de l'énergie mondiale. Donc c'est vrai que l'Islande est un laboratoire en géothermie.
On a Sylvain Chermette qui nous rejoint. Sylvain, bonjour.
Bonjour.
Tu accompagnes un groupe de personnes qui aiment venir sur les volcans. Parmi les activités développées en Islande, il y a un tourisme volcanique.
Oui, c'est vrai que l'attrait des volcans, qui est quand même quelque chose d'assez impressionnant, fait qu'il y a tout un tourisme qui s'est développé autour de ça. J'ai fondé 80 jours voyage en référence à Jules Verne. Et moi, effectivement, mon métier, c'est d'accompagner des gens au plus près des éruptions. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, l'Islande est quand même un pays très riche parce que il y a des éruptions régulièrement, il y a beaucoup de paysages volcaniques qui, même en dehors des éruptions, offrent des possibilités de voyage et de tourisme qui sont assez extraordinaires. Et du coup, ouais, c'est un super terrain de jeu pour les passionnés de volcans.
Au-delà du tourisme, l'Islande que tu connais bien a réussi à intégrer l'activité volcanique dans sa vie quotidienne.
Déjà, il faut voir que les Islandais vivent au contact des volcans depuis toujours et qu'il y a des éruptions tellement régulières qu'il n'y a quasiment pas un Islandais qui n'a pas été confronté à un moment ou un autre à une éruption. Et on sait utiliser cette richesse dans pas mal de domaines. On en a parlé un petit peu donc dans la géothermie. C'est vrai que c'est une source d'énergie pour produire de l'électricité. Ils injectent de l'eau dans des zones chaudes qui ressort sous forme gazeuse, qui fait tourner des turbines et qui produit de l'électricité. Mais ils servent aussi naturellement de l'eau chaude pour tout ce qui est chauffage. C'est le cas par exemple à Reykjavik, la capitale, où l'eau chaude au robinet est naturelle. Et ça leur fait des économies qui sont très importantes, surtout dans un pays froid comme l'Islande, où le chauffage est quand même indispensable.
Environ la moitié de l'électricité sur l'île est produite grâce à la géothermie.
Qui dit beaucoup de glaciers, dit beaucoup de rivières et l'eau ne manque pas. Donc il y a pas mal de centrales hydroélectriques et ce qui donne au pays l'électricité bon marché, ce qui a permis après de développer d'autres industries, notamment l'industrie de l'aluminium qui est grande consommatrice de...
Industrie lourde. Hein.
Voilà, industrie lourde.
Assez controversée.
Assez controversée tout à fait. Et ce qui fait que c'est controversé, c'est notamment le grand barrage qui a été fait dans l'est du pays qui a inondé pas mal de terres. Le débat était d'autant plus important que c'était pour produire une électricité qui n'était pas nécessaire à la vie quotidienne des Islandais, mais qui était pour faire rentrer des devises. Mais autre chose qui a pris aussi une certaine ampleur là, ces dernières décennies, c'est tout ce qui est serveur web, qui sont aussi des gros consommateurs d'énergie et qui en plus ont besoin d'être refroidis. Et c'est vrai que en Islande, avec l'énergie bon marché, plus le refroidissement qui peut se faire juste en ouvrant la fenêtre, pour simplifier un peu, c'est vrai que c'est une situation idéale. Et comme l'Islande est entre les États-Unis et l'Europe, il y a un bon réseau de fibres optiques qui relie les deux continents.
Voilà.
Tout ce qui est Internet aujourd'hui nous paraît très écolo parce que plus de papier. Mais c'est vrai que derrière, il y a des tas de serveurs, de données qui sont stockées, y compris beaucoup de données inutiles, parce que tout ça, ça représente de l'énergie in fine.
Sans compter que la moitié du trafic web aujourd'hui, c'est du visionnage de streaming. La pollution numérique, c'est environ 4,5-5% de la totalité des gaz à effet de serre dans le monde. C'est aujourd'hui pratiquement plus que le trafic aérien. Et ce qu'on attend, c'est que ça triple d'ici 2050.
Quand on regarde une série sur notre ordinateur, on ne se rend pas compte forcément que derrière, il y a aussi des enjeux écologiques et que finalement... On fait peut-être autant de mal à la planète que quand on prend un avion. Quoi.
Ça permet aussi de développer une agriculture.
L'Islande, c'est un pays qui est austère. Il y a peu de terres qui sont cultivables, hein, puisqu'une bonne partie de l'environnement est désertique, minérale. Et du coup, les Islandais se sont adaptés en faisant pas mal de cultures sous serre, qui sont chauffées avec la géothermie et éclairées avec cette électricité bon marché. Le principal qu'on retrouve après dans production locale dans les supermarchés, je dirais que c'est tomates, poivrons, pommes de terre, concombres.
Jacques-Marie, on arrive sur le dernier spot d'observation, le plus haut et le plus proche du volcan. Et en fait, par rapport à tous les sens que ce volcan nous a mis en éveil, la vue, l'ouïe, l'odorat, quelque chose qui nous vient maintenant, on commence à sentir la chaleur du cratère.
On est face à l'échancrure du cratère. On voit la lave qui est au niveau de l'échancrure. On voit un petit lac de lave qui gicle, qui bouillonne furieusement. des gerbes qui montent à plusieurs dizaines de mètres de hauteur et sont à peu près à vol d'oiseau à 400 mètres, 500 mètres du cratère. Donc effectivement, on voit un débordement en torrent de lave qui s'épanche à grande vitesse selon la pente sur un grand kilomètre et qui recouvre le flanc nord.
Ça avance très très vite, hein. La lave, c'est impressionnant.
À la sortie du cratère, c'est un véritable torrent, c'est comme une cascade de lave, comme une cascade d'eau, ça va aussi vite. Le débit est important et ça dure depuis déjà des heures et des heures. Donc c'est vrai que c'est très puissant. Ce volcan montre que la Terre est vivante, que la Terre vit, que la Terre bouge, que la Terre tremble parfois, elle fait des séismes, elle fait des volcans, elle crée des chaînes de montagnes, elle crée des océans. Pas de volcan, pas d'Islande. Toute l'Islande a été faite par les volcans. Et là, peut-être qu'il y a des auditeurs qui pensent que les roches sont toujours vieilles. Et bien là, on assiste à la naissance, à la mise en place de roches qui sont plus jeunes que nous, qui ont une minute, qui ont une seconde.
La modélisation climatique des autorités et des chercheurs islandais prévoit une augmentation de l'activité sismique, volcanique, dans les années à venir.
Bien, il faut savoir que l'océan Atlantique est séparé par une immense faille qui s'écarte, qu'on appelle une dorsale médio-atlantique, et que l'Islande est justement sur cette dorsale. Et donc l'Islande est dans une situation géodynamique très particulière, à la frontière de deux plaques tectoniques, à l'ouest la plaque Atlantique Nord-Amérique du Nord, et à l'est la plaque Eurasie, qui s'écarte en moyenne de 2 cm par an, et qui se comble de magma. Le réchauffement climatique pourrait faire fondre les glaciers, et il y a sous les glaciers des volcans. Par exemple, il y a un grand glacier sur l'Islande qui s'appelle le Vatnajökull, qui est grand comme la Corse.
C'est le plus grand glacier de l'île.
Il fait 2 km d'épaisseur et recouvre 6 volcans. S'il y a moins de glace, moins de pression sur les volcans, ces volcans pourraient être libérés de la pression superficielle, pourraient rentrer plus en éruption. Donc c'est vrai qu'on connaît plutôt l'impact des volcans sur les climats, mais l'impact du climat sur les volcans est à discuter et c'est un petit peu l'objet de ce modèle.
C'est quoi la spécificité d'un volcan sous la glace ?
Alors ce volcan sous la glace, il est prisonnier. Donc en fait, il se forme sa place, il forme un moule. Il s'accumule sous le glacier une poche d'eau qui gonfle, qui gonfle, qui gonfle. Le glacier ne peut plus retenir toute cette eau. Donc l'eau va glisser sous le glacier et va parcourir un chemin. Et donc d'un seul coup, va sortir du glacier, transportant des blocs de glace, des blocs de rochers, de la poussière. Et en 1996, on a calculé que cette crue glaciaire, qu'on appelle l'Okulklop en islandais, avait le débit de l'Amazone.
Ça peut charrier des boues, occasionner des glissements de terrain.
Ça charrie des blocs de glace qui sont gros comme des camions, hein. C'est monstrueux. Alors si ça passe sur un trajet de zone habitée, c'est dramatique. Et on ne sait pas combien de temps va mettre le glacier à retenir ce flot glaciaire qui peut mettre entre quelques jours et quelques semaines à être lâché.
Alors on a des exemples, hein, peut-être pas en Islande, mais dans le monde, où en effet l'éruption volcanique a eu un effet sur le climat.
Donc il y a eu une éruption majeure en 1991, au Pinatubo, aux Philippines, qui a duré une grosse semaine.
Tu y étais ?
Alors, j'y suis allé a posteriori. Mais effectivement, j'ai assisté aux conséquences, qu'on appelle des lahars, des coulées boueuses. Le panache est monté à 40 km de hauteur, et donc a injecté dans la stratosphère, qui est à peu près à 15 km de hauteur, quantité de matériaux qui se sont répartis sur tout l'hémisphère nord. Et donc, les rayons solaires arrivent moins sur la Terre. Ils sont arrêtés par ces gouttelettes. Et les scientifiques ont calculé que la température avait baissé de 3 dixièmes de degré et que ça s'est amorti en 3 ans. Donc maintenant, on a des chiffres réels. On sait maintenant qu'une super éruption, comme il y a eu lieu à Yellowstone il y a 640 000 ans, pourrait abaisser l'hémisphère nord de 10 degrés. Et donc, on aurait les ports d'Anvers et d'Hambourg pris dans la glace. Ça serait une catastrophe écologique mondiale.
Aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, on craint la dilatation des océans et la montée des eaux. Ici, une partie de l'île pourrait augmenter d'altitude.
Effectivement, si la glace fond, l'île pourrait monter un peu, ça serait faible, mais ça ne serait pas nul. Puis effectivement, les volcans également auraient moins de surcharge, donc ils pourraient être un peu plus actifs. Alors c'est quelques pourcentages, mais ça peut modifier un petit peu la logique et la suite des éruptions volcaniques en Islande.
C'est ce qu'on appelle le rebond post-glaciaire ou encore l'ajustement isostatique. Pour nous en parler, nous allons rejoindre l'une de tes consoeurs, glaciologue, Tolly. Elle travaille sur l'évolution de la calotte glaciaire à l'université de Reykjavik et elle nous attend sur le glacier de Sulaimajökull.
Effectivement, elle va nous expliquer comment ces fontes de glace, ces densités relatives entre la glace et la roche font que l'Islande pourrait bouger dans les années à venir. Et on l'a, et on l'a, et on l'a, et on l'a.
Can you take this one?
Yeah.
And then I give you another one. And then we always make the measuring tape.
Et maintenant, je te donne la longue. Nous prenons toujours la mesure à partir du même repère.
Donc là, on va prendre la mesure directement du câble qui est immergé au sein de la glace.
So the wire has been drilled into the ice and is stuck in it. I put the end of the measuring tape at the surface where the wire.
Le câble a été plongé dans cette galerie. On y a fixé une petite bouée qui glisse à l'intérieur comme un bouchon. Il nous suffit de mesurer la longueur du câble qui reste en surface pour en déduire l'altitude exacte de notre point. Là, on a 9,8 mètres. La première mesure était à 9,12 mètres.
Là, on fait trois mesures pour en faire la moyenne et on va pouvoir comparer avec les mesures précédentes que tu as pu effectuer au printemps, le 12 mai exactement.
En mai, nous avions mesuré 5,20 mètres sur le trou en aval et 5,15 mètres sur le trou en amont. Nous avons effectué 10 mesures par an depuis 2013. Nous observons que le glacier perd en moyenne 6 à 8 cm d'épaisseur par jour et se retire d'environ 50 mètres chaque année.
Et tu as travaillé avec tes collègues glaciologues islandais sur différents scénarios à l'échéance 2100.
Nous avons travaillé sur la base de différents modèles climatiques et sur deux scénarios. Dans le premier scénario, nous respectons les accords de Paris. Dans le second, nous ne réduisons pas nos émissions de gaz à effet de serre et la température augmente de 4 degrés. Nous n'avons pas réalisé la simulation pour tous les glaciers islandais, mais prenons l'exemple du plus important, le Vatnajökull. Dans le premier scénario, où nous parvenons à réduire nos émissions pour limiter la hausse de température à 1,5 degré, le glacier pourrait conserver 30 à 60% de la surface actuelle. Dans le second scénario, où nous ne suivons pas les accords de Paris et la température augmente de 4 degrés, seulement 30% du glacier pourrait survivre et probablement moins que ça.
Et le ruissellement de l'eau qui file sur le glacier. Des rigoles qui viennent sculpter toute la surface du glacier. Il faut faire attention, pas trop s'approcher.
Maintenant, les glaciers fondent et les réserves d'eau également. Mais ça veut dire aussi plus d'eau de fonte dans les rivières. Et les compagnies d'hydroélectricité commencent à intégrer ça dans leurs prévisions. Produire plus d'électricité au fur et à mesure que le glacier fond. Cette première phase durerait environ 70 à 100 ans. Ensuite, la source principale de rechargement des rivières ne serait plus les glaciers, mais les précipitations. Mais pour l'instant, les compagnies hydroélectriques profitent de cette fonte.
Another consequence is that the land is lifting up because the frozen water in the glacier is quite heavy, so it's pressing down the crust.
Une autre conséquence, le niveau des terres pourrait s'élever parce que le poids de la glace exerce une pression sur la croûte vers le bas. Mais si cette glace fond, cette pression diminue et les terres remontent. Nous avons effectué des mesures auprès du Vatnajökull et nous avons observé que sur certains points, la terre s'élève de 1,5 à 2 cm par an à cause de ce rebond isostatique. Il y a une ville portuaire à proximité du glacier à l'est de l'Islande qui s'appelle Hoop qui rencontre ce problème et les bateaux ne peuvent plus accoster au port.
Tolly, d'ici nous surplombons une bonne partie du glacier et nous observons deux choses. D'abord, les marques sur les parois des falaises qui nous renseignent sur le niveau de perte de la masse glaciaire. Et je me souviens être venu sur ce glacier il y a exactement 10 ans et on commençait l'ascension 400 à 500 mètres plus loin. À la place, il y a maintenant un lac qui s'est formé au bout de la langue glaciaire sur lequel surnagent 4 à 5 blocs de glace qui se sont détachés.
Yes.
Oui, ils ont même dû déplacer le parking d'accès du glacier car il était trop loin. Ils l'ont rapproché. Depuis les années 90, depuis que le glacier a commencé vraiment à se retirer, il a formé un lac qui devient de plus en plus important. La dernière mesure indiquait une profondeur de 63 mètres. Là, nous voyons la conjugaison de deux phénomènes. La calotte en amont pousse la glace vers la langue glaciaire. Et la langue, que nous voyons devant nous, fond. Il y a comme deux mouvements opposés qui empêchent le glacier de se recharger. Et comme la glace est maintenant en contact avec l'eau du lac, le phénomène d'érosion est de plus en plus fort et des blocs de glace se détachent.
Tolly, tu as travaillé sur l'observation de glaciers dans plusieurs pays du monde, et notamment dans les Alpes suisses. Quelles sont les différences que tu notes entre les glaciers islandais et les glaciers alpins ?
Yes, in Switzerland they are quite a lot smaller, so they're filling only like a valley.
Oui, en Suisse, ils sont plus petits qu'ici et forment comme des vallées. Ici, nous avons des glaciers comme le Vatnajökull, le plus important de l'île, qui vient couvrir plusieurs vallées dans plusieurs directions. C'est ce qu'on appelle la calotte glaciaire. On observe que la calotte glaciaire répond plus lentement que les petits glaciers aux effets du dérèglement climatique.
And also difference from Iceland and Switzerland is that we have in what we call a mild climate.
Et une autre différence, c'est le climat tempéré que nous avons en Islande. Il ne fait pas si froid l'hiver et pas très chaud l'été non plus. On peut à la fois voir de la neige en décembre, mais dans le même temps observer la fonte des glaciers. C'est très variable. Notre climat dépend de la manière dont les courants marins et les zones arctiques vont réagir à l'avenir.
Le réveil des volcans islandais, c'était un reportage de Samuel Turpin.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI et si vous voulez élargir vos horizons, vous avez bien raison. Par exemple, quels sont les bons choix à faire pour que l'agriculture en Afrique subsaharienne soit suffisamment solide pour nourrir une population qui va doubler dans le contexte du dérèglement climatique qui complique tout ? Actuellement, le secteur agricole emploie les deux tiers de la main-d'œuvre africaine et représente généralement 30 à 40% de la richesse des pays. Dans ce contexte, l'agroécologie, qui vise à concevoir des systèmes alimentaires impliquant moins de pression sur l'environnement et un usage plus modéré des ressources naturelles, est une solution prometteuse. C'est en tout cas l'avis du Sénégalais Alioune Fall, qui préside le FARA, le Forum pour la recherche agricole en Afrique, et le conseil scientifique du CIRAD, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Alioune Fall a longtemps dirigé l'Institut sénégalais de recherche agricole.
L'ISRA, depuis les années 80, travaille déjà avec les producteurs, ce qu'on appelle travailler en milieu paysan, avec des équipes de recherche dans ce qu'on appelait le Farming System Research, c'est-à-dire le travail en milieu paysan. Donc depuis cette période-là, l'agroécologie était intégrée dans les solutions qui étaient proposées aux producteurs. Je donne juste un exemple. On se rendait compte que quand vous cultivez dans une parcelle, vous récoltez, vous vendez, vous faites de l'exportation. C'est-à-dire que vous prenez la fertilité de ces terres et vous exportez ce que vous vendez sur le marché. Les gens ne se rendent pas compte. Et donc, on avait introduit en son temps, parce qu'il y avait le machinisme agricole qui se développait avec la traction animale dans beaucoup de systèmes de production, ce qu'on appelait le labour de fin de cycle. C'est-à-dire comment, à la fin de la récolte, au lieu d'évacuer tout ce qui était végétaux sur la parcelle, on l'enfouissait en fin de cycle pour reconstituer le niveau de fertilité sol. Donc déjà, ça avait commencé comme ça. Donc ça veut dire que l'agroécologie, par essence, je pense que l'agriculture africaine, par essence, c'est agroécologique. Après, on a essayé d'améliorer. On a dit, tiens, pourquoi ne pas mettre de la fertilisation organique ? La fertilisation organique a ses limites, bien entendu. Ce n'est pas comme la fertilisation minérale. La fertilisation minérale, on cherche la productivité tout de suite. Alors que la fertilisation organique, il faut donner du temps à la matière organique de se décomposer, ce qu'on appelle la minéralisation, et ça peut prendre 2 ans. Donc on a dit, on fait organominéral. on mélange organique et minéral pour aller un peu plus vite parce que quand même il y a des besoins de production pour satisfaire l'alimentation. Donc chemin faisant, effectivement, on constatait aussi qu'il y avait dégradation des terres. Et quand on parle de dégradation des terres, il faut penser à l'érosion éolienne, à l'érosion hydrique, parce que le vent aussi crée beaucoup de dégradation au niveau de ces terres-là. Et avec le changement climatique, ça s'est démultiplié. Parce que depuis les années 70, ça avait déjà commencé par la sécheresse. Les gens ne parlaient pas de changement climatique. Dans les années 70, on disait « Oh, la sécheresse au Sénégal, en Afrique ». Voilà, on a créé des organismes pour lutter contre ça. Et après ça, c'est la salinisation des terres. Les gens ne se rendaient pas compte qu'avec le changement climatique, la nappe devenait de plus en plus salée parce que les mers... Voilà.
Oui, en fait, le mécanisme, c'est que comme on pompe beaucoup d'eau dans la nappe phréatique, elle baisse en pression, la mer rentre et du coup, l'eau se trouve salée.
Voilà, donc ça a commencé. Les gens commençaient à voir dans toute la côte africaine que le sel, il y avait intrusion de sel dans les parcelles, les gens ne pouvaient plus faire de récoltement. Bon, tout ça agrégé, on s'est rendu compte maintenant. Il faut parler en termes de changement climatique. Ce n'est pas uniquement ça, c'est partout maintenant. Et là, la transition agroécologique est revenue vraiment mettre sur la table des pratiques endogènes, des pratiques qui devraient permettre quand même de minimiser ces risques-là.
Alors, l'enjeu de l'agriculture durable, c'est évidemment essentiel pour le continent africain, puisqu'on sait qu'il y a une énorme croissance démographique. Il y a une forte urbanisation en parallèle. Donc là, on s'éloigne des campagnes. Il y a une main-d'œuvre jeune qui va arriver sur le marché qu'il va falloir occuper. Donc, il faut les attirer aussi vers l'agriculture. Donc, comment est-ce qu'on rend l'agriculture attractive aujourd'hui ?
La question qu'on se pose, est-ce que l'agriculture peut absorber tout ça ? C'est une grosse question, parce que n'oubliez pas qu'en face, déjà, nous avons les producteurs. Les producteurs entendent tous ces discours et se rendent compte qu'il y a tout un pan vraiment de la population qui pense que l'agriculture pourrait absorber. Et eux, déjà, ils savent quels sont les problèmes qu'il y a dans l'agriculture. Donc ça, c'est un débat qu'on ne mène pas souvent. Interaction entre les producteurs actuels et peut-être une génération qui voudrait utiliser, disons, ce secteur comme pourvoyeur d'emploi. Je pense que ce débat, c'est un débat qui est très actuel. Je ne peux pas vous dire quelle est la solution. En tout cas, c'est une dynamique. Et dans cette dynamique, il faudrait que aussi bien les chercheurs, les décideurs, que ceux qui sont occupés de ce qu'on appelle le développement, notamment les développeurs, puissent entrer dans ce débat et pouvoir participer à l'encadrement de ces jeunes. C'est sûr que c'est un secteur qui peut absorber. Ça n'est pas uniquement cultivé, ça peut être tous les services qui sont autour de l'agriculture. Il ne faut pas que les gens pensent que quand on parle d'agriculture, on parle avoir des terres, un tracteur et puis cultiver. Non, l'approvisionnement des intrants. Je donne la transition agroécologique. Qu'est-ce qui va donner les produits aux producteurs? Et quels sont les produits qu'on pourrait utiliser pour améliorer ce que font les producteurs? On parle du compost. Qui doit fabriquer le compost? Tout ça, c'est des secteurs dans lesquels on peut créer des emplois. Par exemple, les biopesticides. Nous, on avait, au niveau de la recherche, commencé à utiliser le neem, qui était très bon pour lutter contre certains insectes, mais si vous voulez chercher des produits à base de neem, vous n'allez pas en trouver. Actuellement, les produits à base de neem que je vois au Sénégal viennent d'Inde, vous comprenez. Donc ça dit qu'il y a une opportunité qui s'offre à ces jeunes-là pour entrer dans des start-up ou bien dans des, en tout cas, commencer à créer de l'emploi et puis être patient. Parce que l'agriculture, ce n'est pas une question du jour au lendemain, être riche, avoir de l'argent, il faut être patient. Un projet se décline 2 ans, 3 ans, 4 ans avant qu'on ait le retour sur l'investissement. Et ça, les producteurs le savent. Ils savent que, bon, quelquefois, ils cultivent, mais comme c'est des coûts d'opportunité nuls, généralement, si vous prenez la main-d'œuvre familiale, le chef d'exploitation ne se paye pas lui-même, mais ce qu'il attend, c'est la production. Mais vous mettez un jeune qui va utiliser de la main-d'œuvre, il faut qu'il paye la main-d'œuvre. Vous voyez, ce n'est pas la même chose. Donc, tout ça, c'est des choses qu'il faut que les gens comprennent bien avant qu'il y ait des déceptions au bout, quoi.
Et puis, il y a tout ce qui est après la culture. Hein. Vous disiez, il y a ce qui est en amont, avant le champ, mais il y a après l'aval, hein, tous les marchés qu'il faut construire. Et là aussi, il y a un travail colossal à faire pour limiter le gaspillage et puis aussi pour contrer les importations.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire les marchés, l'existence des marchés. Parce que vous n'allez mettre personne sur quelque chose, il n'y a pas de marché. Parce que sinon, les gens ne vont pas avoir des ressources, ne vont rien gagner. Donc, la structuration de ces marchés, c'est très important. C'est vrai que les décideurs, la politique, a un rôle très important à jouer en termes d'ouverture des marchés, d'encadrement des marchés, parce que l'État ne vend pas, mais doit préparer le terrain pour que ceux qui veulent vendre puissent vendre leurs produits. Il y a tout ce qui est réglementation, il y a tout ce qui est contrôle, parce que la contrôle qualité, c'est très important, surtout pour les jeunes qui vont rentrer dans les chaînes de production vers l'exportation. Il y a tout un truc de contrôle de qualité et tout ça. Il faut que tout le monde soit formé dans ce sens-là. Il ne faut pas avoir une vision réductrice. Il faudrait que vraiment on appréhende toute la chaîne de valeur. Qu'est-ce qu'il faut produire pour satisfaire les besoins du marché?
Avec un contexte quand même difficile pour l'agriculture en Afrique subsaharienne, qui est celui des changements climatiques. Comment est-ce que vous voyez ça, vous, avec le recul des années et l'expertise que vous avez? Est-ce que vous êtes inquiet?
Bon, on est tous inquiets. En fait, ce n'est pas spécifique à l'Afrique. C'est vraiment partout en France, partout. Les changements climatiques, vous allez chez les producteurs, c'est vécu. Bon, en Afrique, c'est encore plus compliqué. Parce que déjà, sur le plan pluviométrique, c'est ça qui est ressenti tout de suite dans les changements climatiques. Il y a un raccourcissement des hivernages et diminution des quantités de pluie. Donc ça amène encore d'autres risques. Donc nous, ce qu'il faudrait faire, c'est avoir toute une politique de maîtrise de l'eau, c'est-à-dire comment augmenter les systèmes irrigués. Pas irriguer près de 100%, mais avoir de l'irrigation d'appoint. Quand il y a trop de sécheresse, quand il ne pleut pas deux semaines, des choses comme ça, que les gens puissent rapidement trouver de l'eau, comme par exemple des bassins de rétention. Bon, je crois que cette politique-là, on ne l'a pas suffisamment investie pour savoir qu'est-ce qu'on peut avoir dans des zones où chaque goutte d'eau peut être valorisée. C'est-à-dire, quand il pleut, il faut qu'on dégage des stratégies pour stocker de l'eau.
Mais ça coûte cher.
Ça coûte cher de faire ça, mais je pense que les infrastructures, souvent, on dit que c'est l'État. Donc, il va falloir qu'on demande à l'État d'accompagner la production. Comme ils sont en train de subventionner, partout dans le monde, les gens subventionnent. Bon, c'est cher. Mais c'est mettre en tout cas les producteurs dans les meilleures conditions de produire pour satisfaire les besoins de consommation de la population. Parce qu'il faut qu'on garde à l'esprit qu'il faut nourrir la population. Et nous pensons que l'Afrique, pour nourrir l'Afrique, nous avons suffisamment de terre, nous avons suffisamment de cours d'eau. C'est juste une question de que les gens s'entendent sur le plan organisationnel. Entre pays, hein, parce que moi je pense les frontières, le Mali, vous allez à Niono, c'est 1 million d'hectares irrigables où on peut faire du riz. Quel est le rôle que le Mali pourrait jouer dans la sous-région en termes de production de riz? Vous allez au Ghana en matière de tubercule. Ça doit être des leviers de politique. Au Sénégal, par exemple, il y a un centre régional d'excellence qui travaille sur les céréales sèches, que ce soit le mil, le maïs, le sorgho. Il le fait aussi bien pour le Sénégal que pour la sous-région. Je pense qu'il faudrait vraiment qu'il y ait une approche intégrée pour qu'on voit un peu comment l'Afrique pourrait sortir et en tout cas développer des stratégies de résilience. C'est surtout des stratégies de résilience face à ces changements climatiques.
On peut miser aussi sur certains types de cultures qui sont plus résilients que d'autres. Et ça veut dire peut-être renouer avec une alimentation ou en tout cas préserver l'alimentation traditionnelle.
Oui, il y a un important travail qui est en train de faire. Bon, on n'a pas tout dit, quoi. Au niveau de la recherche, c'est la recherche variétale, par exemple. On est en période de sécheresse. Est-ce qu'on peut mettre en place des variétés à cycle plus court, des variétés qui cadrent vraiment avec la durée de la pluviométrie qui de plus en plus diminue? Oui, ces variétés, la recherche est en train de travailler là-dessus et il y a des variétés qui sont sorties que les producteurs utilisent. Bon, maintenant, il y a d'autres besoins des producteurs en termes de tests organoleptiques. Est-ce que ça correspond un peu à nos habitudes alimentaires? Ça, c'est des questions de recherche sur lesquelles il faut travailler. Je donne juste un exemple. Le CERAS, qui est le Centre Régional d'Excellence sur les céréales sèches, a sorti une variété de sorgho sans tanin. Parce que ce qui se passait, c'est que le mil dans certaines zones ne passait plus. Mais le mil, pour les producteurs, c'est quoi? C'est du couscous. C'est faire du couscous, ainsi de suite, quoi. Et c'est sorgho. Le sorgho qu'il y avait avant, on ne pouvait pas l'utiliser pour faire du couscous parce qu'il y avait le tanin. C'est amer, ça, on ne peut pas. La recherche a sorti 6 variétés de sorgho sans tanin. Je te dis que le couscous est meilleur que le couscous de mil. Donc la recherche peut sortir des réponses, bien entendu, mais en rapport avec les producteurs, pour que ce soit des solutions adaptées à leurs conditions d'existence.
Yeah.
La Sierra Leone dans ses pas du vent sur RFI avec le Kondi Band. Nous parlons de l'agriculture en Afrique subsaharienne avec Alioune Fall, le président du FARA, le Forum pour la recherche agricole en Afrique. Alioune Fall, aujourd'hui les deux tiers de la population vit en zone rurale, mais malgré cela, la grande majorité des pays d'Afrique subsaharienne peinent à respecter l'engagement qu'ils ont pris à Malabo en 2014 de consacrer au moins 10% de leur budget à l'agriculture.
Bon, suivant les pays, bon, au Sénégal, c'est une priorité. Bon, c'est vrai que l'Afrique est d'abord un peu compliquée. D'abord, il faut que les organisations sous-régionales marchent, et marchent bien, pour que, effectivement, toute décision puisse être une décision partagée. Et voilà, cette vision-là, on ne l'a pas encore. Il faut le dire, hein, les gens, ils travaillent. Ils savent que c'est difficile, mais il faut qu'on y arrive pour que, effectivement, ceux qui sont en charge des décisions politiques et de développement, quand même l'ancrage au niveau national, qu'on puisse les mettre en œuvre. Je ne parle pas des frontières. Pour moi, quand on parle de l'Afrique de l'Ouest, Sénégal, Mali, Burkina, bon, il n'y a pas de frontières, quoi. Et toutes ces questions, ils ont mis en place Zeleka, c'est la zone de libre-échange en Afrique. Donc ça vient de démarrer. Donc si Zeleka marche, ça veut dire que la Côte d'Ivoire, on peut avoir des choses pour le Sénégal en inter. Et je pense que, bon, là, on va profiter des vocations des terres dans différents pays et des potentialités qui existent dans ces pays-là, au lieu que chaque fois les pays s'enferment et puis ne produisent pas suffisant pour la population.
Il faudrait que chaque pays mise sur les écosystèmes naturels qui sont à sa disposition et y mette les bonnes variétés.
Exact, c'est exactement ça. C'est-à-dire que maintenant, cet écosystème, je donne par exemple la riziculture aquatique ou bien la riziculture de mangrove, c'est le Sénégal, la Guinée, la Gambie, le Libéria, la Sierra Leone, c'est toute cette zone de l'Afrique de l'Ouest qui va s'adonner à ce type de riziculture. Donc ces zones-là, il ne faudrait pas que ça soit juste. Si le Sénégal en a un tout petit peu et la Sierra en a beaucoup, vous comprenez, il faut qu'il y ait des échanges dans ces politiques, donc au niveau sous-régional, pour regrouper ces pays-là, pour que les pays puissent travailler autour de politiques communes. Donc comme vous avez les politiques communes en Europe, hein, c'est ça, le PAC ou bien je ne sais pas comment vous appelez, mais je crois qu'il faut qu'on y arrive.
La PAC, la politique agricole commune.
Voilà, c'est ça, il faut qu'on y arrive.
Il y a plusieurs modèles hein, d'agriculture pour le 21e siècle. Il y a notamment un autre modèle que l'agroécologie qui s'appelle la smart agriculture, l'agriculture intelligente. Vous répondez définitivement parce qu'en effet, c'est plus poussé par les anglo-saxons que par les francophones, avec des risques de perversité quand même, notamment pour l'autonomie des producteurs. Qu'est-ce que vous en pensez?
En fait, c'est des modèles. Ces modèles ne s'appliquent. Tout le monde n'a pas accès à ce niveau de technologie. Bon, maintenant, la première question, en fait, au début de l'émission, vous avez parlé de création d'emplois. Le smart agriculture est une opportunité pour insérer des jeunes qui voudraient aller vers de l'intensif. Vous mettez des serres. Bon, tout ce qu'on fait dans des parcelles paysannes, on peut le faire dans des serres. Mais ça demande de l'investissement. Ça coûte excessivement cher. Donc, si on veut effectivement créer des emplois dans ce milieu, il va falloir être suffisamment imaginatif pour savoir qu'il y a des modèles qui pourrait correspondre un peu à des jeunes qui sortent du, je sais pas, des universités qui ont déjà intellectuellement un certain bagage, qui pourraient bien comprendre le smart agriculture, la culture hors sol, contrôler le niveau d'irrigation, ne pas perdre de l'eau, tout se fait automatiquement. Tout ça, c'est des choses, c'est ça le smart agriculture.
Au niveau de la qualité des sols, vous en parlez beaucoup parce que c'est essentiel. On sait qu'il y a une désertification très forte en Afrique de l'Ouest, notamment, enfin, dans une grosse partie de la bande sahélienne. Il y a aussi la perte de biodiversité qui est massive, avec la déforestation qui continue. Tout ça, finalement, c'est hypothéquer le potentiel agricole du continent.
Ça, tout le monde le sait. En Afrique, il y a eu tellement de déforestation, tellement de... Parce que c'est les nouvelles technologies qui, souvent, qui créent ces questions-là. Parce qu'au début, c'était un développement top-down. On dit qu'on veut produire suffisamment d'arachides pour l'exportation, des choses comme ça. Bon, on vous amène du matériel de traction animale et des tracteurs. Voilà, maintenant, pour que ça marche bien, il faut couper tous les arbres. Voilà, il faut dessoucher parce que le tracteur ne peut pas évoluer. Mais ça, on était dans cette logique, il faut arrêter ça. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est de gérer la biodiversité parce qu'il y a une richesse qui se trouve au niveau des terroirs villageois, au niveau des territoires, qu'il faudrait préserver pour quand même assurer la reproductibilité des exploitations familiales. Maintenant, je pense qu'il va falloir faire le mieux possible pour reconstituer tout ça. Et le sol, c'est la même chose. Le sol est le patrimoine numéro un. Et c'est la base productive de notre agriculture. Si nous perdons le sol, autant qu'on déménage, qu'on plie bagage et puis qu'on s'en va. Nous sommes dans le choix, on reste et on se bagarre, donc il faut tout reconstituer.
Ça passe par exemple par l'agroforesterie, c'est-à-dire replanter des arbres au sein des parcelles, mais pour ça, il ne faut pas planter n'importe quoi n'importe où, et il faut que ce soit des arbres que les populations adoptent, qui soient utiles pour les paysans.
C'est ça, quand on parle de démarche participative, quand on parle de démarche inclusive, quand on parle de plateforme multi-acteurs, donc maintenant ça veut dire qu'il faut tenir compte des besoins locaux. Vous ne pouvez pas venir mettre n'importe quel arbre, non. On a eu cette question-là quand tu posais la grande muraille verte. Le choix des espèces, c'était fondamental. Une grande muraille verte, que les populations vont s'occuper de cette grande muraille verte. Donc, il faut les intéresser. Si vous ne le faites pas, ce sera du charbon de bois après.
Alors, ce projet de grande muraille verte, il a été relancé là, en janvier dernier, notamment par le président Emmanuel Macron, qui a stimulé les bailleurs internationaux pour mettre de l'argent. On est arrivé à 19 milliards de dollars mobilisables sur cette grande muraille verte. Encore faut-il que cet argent arrive sur le terrain, hein, au plus près des producteurs. C'est tout un système à mettre en place, une grosse machine. Est-ce que vous y croyez ? C'est un projet qui vous semble porteur ?
Bon, c'est une question de journaliste, quoi. C'est vous qui avez fait votre analyse. Bon, vous posez des questions, et vous posez des questions, de bonnes questions. Nous sommes de l'autre côté. Nous avons les technologies. Nous sommes toujours prêts à accompagner les politiques dans les choix. Parce que nous pensons que nous sommes suffisamment experts pour avoir des technologies disponibles et souvent très adaptées pour que les producteurs puissent les utiliser. Bien entendu, un travail comme ça demande toujours des investissements, des ressources. Bon, que ceux qui sont chargés de mobiliser ce côté des ressources fassent aussi leur travail. Et puis je crois que ça va aller.
Pour conclure, vous êtes convaincu que l'Afrique peut nourrir l'Afrique. Vous êtes convaincu que le potentiel est là.
Je dis pas que l'Afrique va nourrir l'Afrique. On dit que l'Afrique est un food basket. C'est-à-dire qu'on peut produire tout ce qu'on veut en Afrique. L'Afrique va nourrir le monde. C'est aussi simple que ça. Et on peut le faire.
Alioune Fall dans C'est pas du vent sur RFI. Si vous voulez réagir à ces propos ou à l'émission en général, n'hésitez pas par mail c'estpasduvent@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi nous réécouter ou partager nos podcasts sur vos plateformes préférées. Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous pour votre fidélité. Prenez soin de vous et des vôtres. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Même planète, même heure. La marche du monde.